Français Plus, Béatrice Malige.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Voilà, j'ai même envie de vous dire que si vous aimez Pentagon Papers, allez vous faire voir. Pardon. Alors, c'est très rare que j'abîme un petit peu un film, mais là, on en fait tellement des gorges chaudes, on nous dit tellement que c'est un film formidable, qu'il faut absolument voir. Eh bien, j'y suis allé. Eh bien, je peux vous dire que Pentagon Papers, pourtant un film de Steven Spielberg, eh bien, vous pouvez éviter d'y aller. Quoi. Vous avez le droit d'y aller aussi. Mais bon, voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je trouve que c'est un film qui surfe, on va dire, sur l'actualité. Pour moi, c'est un film sans intérêt. C'est même un peu gênant, je dois dire, parce que Steven Spielberg, j'aime beaucoup. Meryl Streep aussi. Tom Hanks, pourquoi pas. Donc, a priori, ça pouvait être quelque chose de sympathique. Eh bien, je peux vous dire que c'est raté complètement. Pourquoi ? On a l'impression que ce film, il est fait bâclé, un peu à la va-vite, pour être dans l'air du temps, ce que je vous disais tout à l'heure, pour rebondir sur, pour nous expliquer, enfin, pour nous parler de Trump, d'une certaine façon, sur l'affaire Weinstein. Voilà, donc c'est un peu des mobiles qui sont un peu déplaisants. Voilà, en même temps, je vous donne mon point de vue, hein, ça ne n'engage que moi, évidemment. Voilà, donc, oui, c'est ça, je trouve que c'est un film qui est sans inventivité, sans créativité. Alors, il y a juste les premières images qui fonctionnent assez bien, puis alors après, c'est raplapla, rablabla, blablabla, blablabla. Donc, c'est un peu naïf, c'est un peu cucul à pralinette. Meryl Streep, je sais pas pourquoi on en fait une femme, là, une vieille mamette. Enfin, bon, moi, je sais pas, ça me gêne. Et puis, même quand elle joue, elle surjoue. Tom Hanks, alors n'en parlons pas. Spielberg s'en est foutu complètement parce qu'il les a laissés faire complètement. Non, franchement, je me suis ennuyé, c'est pas convaincant. Alors je me dis que, mais pourquoi ce film est encensé ? Alors évidemment, c'est Spielberg, enfin, c'est forcément des gens qui n'ont pas vu le film, c'est pas possible autrement. Après, je me dis, ben oui, c'est vrai que le sujet du film, c'est que la presse est formidable, la presse est encensée, il faut laisser la liberté de la presse. Et qui fait les critiques de films ? Eh bien, figurez-vous que c'est la presse. Donc, évidemment, ils ne pouvaient pas dire, ah non, 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 parce que pourtant, ça, ouais, on pourrait faire un film identique. Quelquefois, la presse, je ne dis pas qu'il faut la bâillonner, mais bon, la presse ferait mieux de se regarder soi-même et de ne pas dire quelquefois n'importe quoi et voilà, pour avoir l'air d'être branché. Hein. Bon, enfin, ça, c'est un autre problème et qui n'est pas dans le sujet Pentagon Papers. Alors, on ne va pas perdre trop de temps à parler de ce film, parce qu'en plus de ça, est-ce qu'il faut dénoncer, parler, juger ? Alors, évidemment, quand on regarde le fond du film, quand on sait que Nixon et tous les hommes politiques envoyaient des jeunes se faire tuer, parce que c'est un film qui se passe à ce moment-là, au Vietnam, alors qu'on savait pertinemment que c'était une guerre qui était ratée, qu'on la gagnerait jamais, c'est vrai que c'est monstrueux. Donc le dénoncer, moi je suis pas contre, mais je parle du film, moi. Je parle du film de Spielberg, ce qui est tout à fait différent. Et donc là, franchement, bon, bref. Donc voilà, on va pas en parler plus longtemps, donc à éviter. En revanche, pas du tout dans le même style, mais qui parle de choses aussi très très intéressantes, c'est Three Billboards, avec un, là encore traduit avec un titre qui veut rien dire, Les panneaux de la vengeance. Non, non, c'est pas du tout un film sur la vengeance, mais en revanche c'est bien trois panneaux d'affichage. C'est un film de Martin McDonagh, et c'est un film très surprenant qui est réalisé de main de maître et qui nous montre un monde américain fait de personnages plus ou moins déjantés. Mais bon, je vais vous en parler tout de suite. Mais écoutez, pour conforter ce que je vous ai dit sur Pentagon Papers, le mieux, c'est que vous écoutiez la bande-annonce et vous allez voir, vous allez être écroulé sous la table. Allons-y, on s'écoute la bande-annonce. Stéphane, c'est parti.
Je peux vous poser une question purement théorique.
Oh là là, je n'aime pas ça, les questions théoriques.
Je ne pense pas que vous aimerez la vraie question non plus.
Vous vous êtes procuré le rapport ?
C'est en cours.
C'est une atteinte gravissime à la sécurité nationale. Ça a fuité du Pentagone ? Les documents de guerre les plus hautement confidentiels.
Le Times détient 7000 pages qui racontent en détail 30 ans de mensonges de la Maison Blanche sur la guerre du Vietnam.
tous ces mensonges. Il faut que cette époque soit révolue.
Ok, tout le monde s'inquiète de voir une femme à la tête du journal. Ils craignent que vous n'ayez pas le cran de prendre les décisions difficiles.
Arthur, je vous remercie pour votre franchise.
Allons faire notre boulot. Dégotez-moi ce document.
On parle de divulguer des secrets que le gouvernement garde depuis des années.
C'est légal, ça?
Qu'est-ce que tu crois qu'on fait ici comme métier, mon grand?
Ben, j'ai peut-être quelque chose.
Ça doit être précieux, ce que vous avez là.
Oh, ce sont des documents secrets des Français.
Le New York Times a reçu l'interdiction de continuer à publier des documents confidentiels concernant la guerre du Vietnam.
Si on publie, on comparaît devant la Cour suprême la semaine prochaine.
C'est-à-dire...
Nous pourrions tous finir en prison.
D'avoir pris une telle décision, d'avoir risqué sa fortune et l'entreprise à laquelle elle a consacré sa vie, ça, je trouve ça vraiment courageux.
Si le gouvernement l'emporte, le Washington Post cessera d'exister.
Si nous, on leur demande pas des comptes, qui le fera?
Nous ne pourrons demander des comptes à personne si notre journal ne paraît plus.
Nixon mobilisera toute la puissance de la présidence. Et s'il existe un moyen de te détruire, tu peux être certaine qu'il le trouvera.
Je te demande un conseil, Bob, pas ta permission.
Elle ne peut pas faire ça. L'héritage spirituel du journal est en jeu.
Que se passera-t-il si nous ne publions pas?
On sera perdant. Le pays sera perdant.
Qu'est-ce que vous comptez faire, Madame Graham?
Voilà, vous venez d'entendre donc la bande-annonce de Pentagon Papers. Alors c'est vrai que aussi doublé, ça enfonce le clou, si je puis dire. Voilà, et en même temps, vous l'avez entendu, tout d'un coup, dire qu'une femme est capable de prendre des décisions, que c'est assez exceptionnel, mais enfin, attendez, mais c'est quoi cette histoire? Je veux dire, attendez, des femmes qui étaient femmes et qui ont réussi à prendre des décisions, mais ça a commencé même avec Ève. Elle a croqué la pomme, nom d'un chien. Donc je veux dire, c'est pour ça que c'est un truc voilà, qui me dépasse, quoi. Voilà, bon, enfin bref, passons. Donc, je préférerais plutôt qu'on parle de Three Billboards, donc le film de Martin McDonagh, qui est donc un film, je vous le disais, très surprenant. Et surtout, on s'aperçoit que le réalisateur a réussi à nous montrer des gens complètement déjantés, mais nous les rendre hyper sympathiques et drôles. Et pourtant, ils vivent des tragédies. Voilà. Donc, c'est un film qui repose beaucoup sur des acteurs exceptionnels, et notamment Mildred, qui est jouée par Frances McDormand. Alors, je suis sûr que ça vous dit quelque chose, Frances McDormand, parce que c'est elle qui... Je crois qu'elle est la femme, je ne sais plus si c'est de Joel ou de Ethan Coen, les frères Coen. C'est elle qui tenait le rôle de Fargo. Vous vous souvenez? Alors ça, si vous l'avez vu, vous pouvez pas ne pas vous en souvenir. Elle était très drôle. Et là, ici, dans le rôle de Mildred, quel bonheur de la voir, parce que elle est nature, elle est directe, elle est sans fioritures. Elle est, et alors, sur un interview, j'avais entendu qu'elle aimait John Wayne. Oui, bah écoutez, je crois qu'elle est un peu John Wayne en jupon. Et évidemment, c'est très amusant. Elle marche comme ça et elle prend ses décisions. Elle tient tête à tout le monde. Elle avance avec détermination. C'est comme un bulldozer motivé par une histoire d'ailleurs gravissime, parce que on rit beaucoup, mais quand même, quand je vous disais que c'est, ils vivent des tragédies. Notamment, elle a perdu sa fille Angela, qui a été massacrée, calcinée, violée, enfin, etc., etc. Et enfin, il n'y a pas pire, quoi, pour une mère, évidemment. Et autour d'elle, les autres personnages ne sont pas très brillants. Notamment, il y a Dixon, le flic. Alors lui, il adore torturer les Noirs, vous voyez. Et alors, en même temps, c'est pour vous expliquer l'humour. Tout d'un coup, il torture, donc il se vante de torturer un Black. Et alors, quelqu'un lui dit non, il faut dire torturer un homme de couleur. Oui, vous voyez, ça change tout, évidemment. Voilà, donc c'est pour vous dire un peu le ton du film. Et en même temps, on s'aperçoit que Dixon, qui est là, ce flic complètement déjanté, on s'aperçoit qu'il a une mère qui est toujours ivre-morte, et c'est elle qui le guide, et voilà, et qui lui explique ce qu'il doit faire. Donc, bon, voilà, donc tout ça est très intéressant. Puis alors, il y a un autre flic qui, lui, c'est le patron, mais il a un cancer. Alors bon, c'est pas mieux. J'ai envie de dire que tous les personnages du film film mériterait, vous savez, une fiche complète pour décrire. C'est vraiment des bras cassés, pas très clean. Mais en même temps, le réalisateur nous les montre. On a beaucoup d'humanité pour eux. On les aime bien. Et tous, évidemment. Alors, l'histoire est très bien racontée. C'est lisse, bien construit. Notamment, y a des actions, des pauses où se mêlent gravité, émotion, rire. Voilà. C'est un film qui s'inscrit d'ailleurs complètement dans notre époque, bien qu'il est situé dans l'Amérique profonde, dans le Missouri, parce que la transposition est facile. Parce que fait cette femme, Mildred? Comme elle en a marre d'attendre, parce qu'il n'y a aucune enquête et on n'a aucun résultat sur la mort de sa fille, elle décide, comme il y a 3 panneaux d'affichage, de mettre des papiers disant « Qu'est-ce que vous faites, monsieur Billy ?» Là, c'est le policier, avec ma fille qui a été violée alors qu'elle était agonisante, etc. Elle met 3 panneaux où elle explique tout ça. Ben, vous savez, cette idée-là, c'est sur des panneaux d'affichage, mais aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux. Vous avez des gens qui disent n'importe quoi. Ils annoncent, ils dénoncent, et on s'aperçoit que parler comme ça, même si on a raison, on a le droit de se poser des questions, c'est quand même lourd de conséquences. Donc on balance sur la toile, sur l'étoile, son ressenti, sa colère, sans en mesurer les conséquences. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que là, en l'occurrence, Mildred, quand elle a mis ses panneaux d'affichage, même le fils est très en colère, le frère d'Angela, parce qu'il est choqué. Il lit comment sa sœur est morte, il ne le savait pas. Agonisante et violée, ça le rend malade. Il y a des choses à ne pas dire, quoi. Ça le rend malade. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je disais que c'est dans l'air du temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette façon de courir derrière la transparence. Mais attends, arrêtez, de temps en temps, c'est bien de ne rien dire. Quelquefois, parler ne fait rien avancer du tout, quoi. On va le voir, d'ailleurs, tout à l'heure, je vous parlerai en vitesse du film, le dernier film de Woody Allen. Parler, ben, on s'aperçoit que, quelquefois, il vaut mieux se taire, quoi, évidemment. Donc, tout dire, tout déballer, ça n'est pas sans conséquence, quoi. Et c'est vrai pour, évidemment, aussi le flic. Will Lugby, il s'appelle. Eh bien, quand tout d'un coup, il voit son nom étalé sur les panneaux d'affichage. Bon, en plus, il a un cancer. Il explique qu'il peut pas, il a pas, il n'arrive pas à trouver le tueur. Et quand à la fin du film, Mildred et Dixon, bon, pour des raisons, mais ça, je vous raconte pas le film parce que je vous suggère plutôt d'y aller, vont décider de partir comme en croisade à la recherche du tueur. Ben, c'est pas aussi simple non plus, évidemment. C'est parce qu'au fond. Parce qu'ils ont vu un type qui pourrait être le tueur, mais c'est pas lui. Au fond, ce film dit aussi que tout le monde est coupable. Si c'est pas de ce crime, c'est d'un autre. On est tous un peu responsables de tout ça, évidemment. Voilà, donc... Et évidemment, à la fin, il y a une sorte de morale, parce que bon, ils se disent, ah ben oui, on va pas flinguer le type si c'est pas lui. Mais... Bon, voilà, c'est américain, hein. Sur la fin, c'est américain, hein. Donc, il y a de la violence dans le film, mais elle est montrée d'une façon extrêmement soft, avec beaucoup d'humour, et notamment, surtout, quand c'est Mildred qui agit, quand elle va chez le dentiste et qu'elle se venge. Enfin, je ne vous le raconte pas, parce qu'il faut que vous y alliez, mais non, n'ayez pas peur, c'est pas un film violent, c'est-à-dire qu'il y a la violence des situations, mais c'est pas montré, hein, c'est pas montré. Enfin, il y a beaucoup de choses dans ce film, enfin, que je vous recommande, évidemment. Il y a beaucoup de force aussi dans ce film. Et puis, alors, surtout, ce qui est amusant à la fin, ça, c'est une bonne idée du scénario, c'est qu'à la fin, alors que ce pauvre Dixon s'est vengé sur un publiciste, enfin, il l'a défenestré, enfin, etc., etc., il rentre vraiment très content de lui, hein, comme un abruti, comme ça, il rentre à nouveau dans la salle de police. Et sur le trottoir, il y a un noir qui est là et qui le regarde passer. Et alors, Dixon, il se retourne, il dit « Tu veux ma photo ?» Alors on se dit, il va lui mettre un pain. Heureusement qu'il ne l'a pas fait, parce que 5 minutes après, on découvre que ce noir, c'est le chef de la police qui vient remplacer l'autre qui est décédé. Vous voyez, donc voilà, tout ça est à l'avenant, évidemment. Voilà, donc des tas de... Il y a aussi des petits détails qui sont très intéressants, notamment quand Mildred, on lui demande de rendre... C'est le nouveau policier qui lui demande de rendre sa plaque de policier. Ben, comme par hasard, Dixon, il ne la trouve pas, vous voyez. Donc c'est quand même quelque part... il n'a pas sa plaque, donc on ne peut pas dire que ce soit vraiment un officier de police. Hein. Et en réalité, il finit par la trouver, et c'est au moment précis où il est viré. Voilà. Donc, c'est un film aussi qui parle des écrits. Hein. On l'a dit tout à l'heure, des écrits, ceux qui tuent, mais aussi ceux qui font réfléchir. notamment avec les lettres de Billy. Avant de mourir, il écrit des lettres. Donc, voyez, les mots sont importants. La façon de se faire entendre. Ça, c'est aussi une vraie question qui existe dans le film. Comment est-ce que je peux dire que j'ai des choses à dire, comment je fais pour me faire entendre? C'est complexe. Et au fond, le film nous montre que le genre humain, ben, il n'est pas si mauvais. Donc je trouve que c'est une réalisation vraiment bien de Martin McDonagh, Three Billboards, ou les panneaux de la vengeance, et je répète que la vengeance, il n'y en a pas, c'est bien autre chose. Donc voilà, je vous recommande très vivement ce film, et je vous propose tout de suite, on écoute la bande-annonce.
What's the law on what you can and cannot say on a billboard? I assume you can't say nothing defamatory, and you can't say fuck, piss, or cunt, that right?
Or anus?
I think I'll be all right then.
I guess you're Angela Hayes' mother.
That's right. I'm Angela Hayes' mother.
So, Mildred Hayes, why did you put up these billboards?
My daughter Angela was murdered 7 months ago. It seems to me the police department is too busy torturing black folks to solve actual crime.
The hell is this?
Dixon, I'm in the middle of my goddamn Easter dinner. Sorry, kids.
I know, Chief, but I think we got kind of a problem.
Sunshine beating on a good time.
I'd do anything to catch your
daughter's killer.
I don't think those billboards is very fair.
The time it took you to get out here whining like a bitch, Willoughby. Some other poor girl's probably out there being butchered right now.
We've had two official complaints about those billboards.
From who?
The lady with a funny eye.
A lady with a funny fucking eye?
And a fat dentist.
There's a lot of good friends of Willoughby in this town, Miss Hayes.
You didn't happen to drill a little hole in the dentist today, did you?
Of course not.
Huh?
I said, of course not.
I'm sorry about Angela, but the town is dead set against these billboards.
You know who threw that can?
What can?
How about you, sweetheart?
No, I didn't really...
Go, girl.
Hey, fuckhead!
What?
Don't say what, Dixon, when she comes in calling you a fuckhead!
The more you keep a case in the public eye, the better your chances are getting it solved.
And when I see the sun...
You know, if you hadn't stopped coming to church, you'd have a little bit more understanding of people's feelings.
All this anger, man. It just begets greater anger.
In 3, 2, 1.
And as sad as the spectacle of these billboards might be, this reporter, for one, hopes this finally puts an end to the strange saga of the three billboards outside.
Then put an end to shit, you fucking retard. This is just a fucking start. Why don't you put that on your Good Morning Missouri fucking wake up broadcast, bitch?
Voilà, vous venez d'entendre donc la bande-annonce de Three Billboards, le film de Martin McDonagh. Et franchement, on le voit d'ailleurs même déjà à la bande-annonce, vous voyez la nuance avec l'autre. Là, il y a quelque chose de plus tonique, dynamique, sympathique, et en plus avec surtout, ne serait-ce que pour la comédienne française McDormand. Franchement, ça vaut le détour. Bien, et alors je voudrais terminer pour vous parler d'un film qui sort actuellement, et de Woody Allen. Eh bien oui, Woody Allen, Wonder Wheel. Encore un Woody Allen, diriez-vous? Eh bien oui. Mais c'est un Woody Allen avec de l'inventivité et qui peut ne pas plaire, mais qui incontestablement est la touche d'un homme qui connaît le cinéma, qui est astucieux, très intelligent, Woody Allen, et qui cherche à raconter des choses de la vie, des choses de sa vie. Et au fond, il dit tout sans rien dire. Alors ici, on entre dans un film noir. Alors ça, il faut que vous le sachiez, c'est profondément noir. Mais son écriture, et c'est là l'inventivité, c'est qu'elle est en contrepoint. On est dans la roue, Wonder Wheel, pardon, cette roue magnifique, cette merveilleuse roue qui est, au fond, la roue de la vie qui tourne. On est là, à ses pieds, on est dans un cirque, et on s'agite dans une histoire sombre, filmée avec dans des couleurs crues, qui changent et se modifient, et qui modifient même les visages et les situations. Des lumières artificielles pour une histoire réelle, dont les ressorts sont puisés au sein même, j'ai envie de dire, de la vie de Woody Allen. On écoute tout de suite la bande-annonce.
Coney Island. 1950s. The beach, the boardwalk. I work here on base 7. Enter Carolina.
Excuse me, do you have Jenny's here?
I'm Ginny.
I'm Pumpty's daughter. Here's wife.
Is he gonna be surprised?
I'm marked. They're gonna kill me.
That's what you get when you marry a gangster.
I gotta have a drink.
No, Humpty, you've been good.
Damn it!
Miss, you can't be out here right now. We're expecting lightning storms.
When you're married to a man who got rich putting people's feet in cement, you probably never had to do a dish.
Your wife don't like to go fishing anymore, Humpty.
She made like she liked it. To get me on the hook, I was the fish.
You know she's a marked woman.
Shouldn't she move on?
I know where all the bodies are buried.
Did he kiss you?
Why are you getting so heated?
I'm gonna find
him. My head is pounding.
Everything's coming apart.
You look a little crazy to me.
When it comes to love, we often turn out to be our own worst enemy.
I know what it is you did.
Don't you think you're being a little melodramatic?
Voilà, vous venez d'entendre donc le film de Woody Allen, Wonder Wheel, donc cette vie merveilleuse, cette roue merveilleuse dans laquelle nous tournons, nous aussi. Voilà, donc vous l'avez entendu, intéressant, c'est très bien fait, rien à dire, il sait travailler. On retrouve d'ailleurs tous les thèmes qui lui sont chers, les femmes évidemment, les trahisons, les infidélités, l'amour, les mensonges, voilà. Et donc cette espèce de mélange où il y a à la fois de la douleur, de la joie, un peu un film qu'on avait déjà vu, mais d'ailleurs dans tous les films, mais notamment peut-être Blue Jasmine, parce que, je le répète, c'est un film noir. Dans de l'humour, il y en a, mais enfin, il est un peu camouflé quand même, hein, là, dans ce film. Parce qu'on retrouve le dilemme qui était dans Blue Jasmine, dire ou ne pas dire la vérité. Et ici, en l'occurrence, c'est ce pauvre Mickey qui, d'ailleurs, commence le film. Qui explique, c'est le narrateur. Le narrateur, c'est aussi un peu Woody Allen, évidemment. Hein. En plus, il s'appelle Mickey. Ça s'invente pas, quoi, avec ses grandes oreilles. Il aurait mieux fait de se taire, parce qu'il, tout d'un coup, il a une liaison avec Ginny, et tout d'un coup arrive Carolina, il tombe amoureux de Carolina. Et il le dit à Ginny. Alors inutile de dire qu'elle tombe dans une fureur monstre. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très théâtral. La comédienne est jouée par Kate Winslet, excellente d'ailleurs. Elle joue très très bien. Et comme elle fait le rôle d'une ancienne actrice, elle joue comme une actrice, quoi. Et on se croirait dans une pièce qui a d'ailleurs des auteurs qui sont cités, Oneille, Tchekhov ou peut-être même encore Tennessee Williams, quoi. Ce sont des auteurs d'ailleurs que Woody Allen apprécie particulièrement. Donc, on s'aperçoit que dans tous les films, donc, la parole est là, présente, mais ne résout rien. Et donc, dans cette famille composée, recomposée, décomposée, j'ai envie de dire, où tout d'un coup, vous savez, il y a un quatuor qui est quand même très intéressant, parce que vous avez le père avec sa fille, Carolina, et qui est mariée d'ailleurs à un truand, c'est pour ça qu'à la fin, on la cherche. Enfin bon, bref, passons, je ne vous raconte pas l'histoire. Et puis vous avez Ginny qui est avec son fils. Et le fils, ben, c'est un peu aussi Woody Allen, parce que lui, il n'arrête pas de mettre le feu. Partout où il est, il met le feu. Et à un moment, on le voit même, il est en train de faire flamber des mannequins, vous savez, des mannequins dans les... qui sont utilisés par les couturières, voilà. Et donc, il met le feu tout le temps, et celui qui met le feu, c'est aussi Woody Allen. Et en plus de ça, comme ça se passe sur une plage de Brooklyn, c'est là que Woody Allen a passé toute son enfance. Alors, on joue sur des lumières, je vous l'ai dit, il y a des changements, l'image est magnifique, et donc complètement artificielle, hein, c'est ça qu'il faut savoir. Et ça change... la caméra est très fluide dans un univers qui est très coloré et tout d'un coup on se part, la vie intérieure et mouvementée des êtres de réalité se part de couleurs artificielles d'une façon très magique. Les dialogues sont très percutants, pertinents et impertinents, voilà, et notamment avec tout ce conditionnel, notamment le gamin pose une question à sa mère, qu'est-ce que c'est le conditionnel, et donc comme après elle dit ben c'est si, et en effet si elle n'avait pas quitté son mari, si elle n'avait pas, on pourrait refaire le monde, évidemment. Donc voilà, et en même temps, on joue aussi sur les gens qui se la pètent un peu, qui font rêver, qui font croire qu'ils connaissent Gauguin. C'est le cas de ce maître nageur. Et à un moment, il dit, et ça, on sent bien du Woody Allen, ma fêlure, c'est que je suis trop romantique. Voilà. Donc ça, c'est quand même un peu d'autodérision sur lui-même, et ce qui, évidemment, est le propre de Woody Allen. Donc ce quatuor, là, comme je vous l'ai indiqué, mère, fils, c'est des situations qui pourraient être banales. Bon, c'est même presque facile, mais c'est quand même... Ça, c'est drôle, parce que c'est modernisé, mais au fond, Woody Allen puise ses comparaisons dans des auteurs extrêmement classiques, comme Hamlet ou Oedipe, voilà. Et donc la tragédie, ça plaît à Woody Allen. Et il joue aussi sur une très belle image, c'est la lumière de pluie. Voilà, quand il pleut, il peut y avoir une certaine lumière qui est peut-être encore plus féerique que normale. Mais bon, voilà, c'est... Donc voilà, c'est un Woody Allen. Moi, je trouve que c'est pas mal du tout. C'est un mélo, hein. D'ailleurs, c'est vrai que quand on regarde la... les premières images, ça se passe sur la plage. Eh bien, il y a un mélo... zut, je me souviens plus du nom de Douglas Sirk qui commence aussi sur la plage. C'était aïe. Eh bien, écoutez, je vous le dirai la prochaine fois parce que j'ai oublié le titre du film. Un mélo, mais qui s'annonce comme tel. Hein. Donc, c'est ce qu'a voulu faire, je pense. Woody Allen, mais en même temps il dit oui, ça ressemble un peu à Mélo. Il y a là aussi une autodérision, je vous fais un Mélo, mais bon, est-ce que je le réussis, je n'en sais rien, voilà. Et la dernière image du film, c'est le feu qui est évidemment destructeur, mais qui est aussi vivificateur, quoi. Donc il y a du noir, du sombre, de l'humour, voilà, mais je pense que quand même là, Woody Allen, on le sent un peu il est sombre, alors pour des raisons certainement variés, dont je ne vais pas parler ici, mais c'est vrai que voilà, il y a l'humour, il peut pas s'en empêcher parce que c'est lui-même, mais je veux dire, c'est un humour très grinçant. Voilà. En tout cas, c'est un film quand même que je vous recommande, oui, et qu'on voit avec grand plaisir. Voilà, donc je vous ai fait un peu le tour de la question, donc vous voyez maintenant, vous n'avez plus qu'à aller voir ces films. Eh bien, je remercie Stéphane, et puis nous, on se retrouve, écoutez, comme d'hab, mercredi prochain.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.